Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Geek avec, comme chaque semaine, mon acolyte préféré, Marjorie. Salut Marjorie, ça va ?
Ça va, bonjour à tous.
Et oui, on parle pas de super-héros aujourd'hui, mais le terme d'acolyte me paraissait fortement approprié pour te présenter un autre acolyte que l'on retrouve souvent dans cette émission, c'est un grand plaisir. Et on va parler de jeux de société, donc il était indispensable bien sûr de l'inviter et de l'accueillir avec nous en studio ici à RCF, Ludovic. Salut Ludo.
Salut à tous.
Alors on va parler, je viens de vous le dire, de jeux de société. On n'est pas historien, voilà, faut qu'on dise les choses clairement et on va pas essayer de faire de l'histoire réellement au sens strict du terme. On va essayer de vous raconter un petit peu quand même les débuts du jeu de société, d'où ça vient, où ça va, quelles sont les grandes licences, les grands phénomènes, et vous parler un petit peu de nos coups de cœur aussi à nous personnels. Et puis voilà, c'est aussi le Festival de Cannes. Non pas le festival du cinéma, mais bien le festival des jeux en ce moment, puisque voilà, Cannes, c'est aussi le festival des jeux chaque année à cette période de l'année à peu près. C'est le plus grand festival des jeux de société en Europe. Alors la France est un marché incroyable pour le jeu de société, mais on n'est peut-être pas les premiers, puisque c'est l'Allemagne plutôt qui est vraiment fer de lance en Europe du jeu de société. Mais voilà, on a à Cannes un excellent festival du jeu. On a quelques connaissances d'ailleurs qui sont en ce moment à Cannes pour jeter un petit coup d'œil sur ce qui se fait et préparer le festival qui a lieu à Alençon chaque année maintenant depuis 2 ans, le festival des imaginaires ludiques. Et donc on fait un petit coucou en passant aux Gobelins Farceurs, voilà, cette association qui prépare le festival avec beaucoup de talent et beaucoup de brio, et puis à l'ensemble des partenaires du festival. On peut saluer voilà Iconcept pour la partie jeux vidéo, et puis particulièrement Pinocchio aussi, qui donne un gros coup de main pour la partie jeux de société et qui accompagne le Gobelin Farceur dans la préparation de ce festival et la rencontre des éditeurs qui vont venir amener des jeux. Donc voilà, Cannes, le festival des jeux, ça nous donne envie de faire cette émission sur les jeux de société et sur leur origine. Marjorie, tu es notre documentaliste en chef. C'est toi qui t'occupes en majorité des recherches autour de ça. Alors, comment toi, tu décrirais un peu l'origine du jeu de société ? Est-ce que tu partirais plutôt dans de l'Antiquité ou est-ce que tu partirais plutôt sur, effectivement, de l'époque moderne au XXe siècle ?
Alors, le fait est qu'il faut d'abord spécifier les jeux plutôt de l'Antiquité, grands jeux classiques comme les échecs ou le bridge, qui sont vraiment très anciens. On peut remonter vers moins 1000, moins 2000 avant Jésus-Christ, à peu près, pour avoir les premiers jeux de société tels qu'on imagine les échecs d'aujourd'hui.
Alors, pas forcément sur les jeux de cartes, voilà. Les jeux de cartes sont beaucoup plus
récents. Non, les jeux de cartes sont un peu plus récents.
Mais effectivement, sur les jeux de société, les jeux de déplacement de pions, les jeux les jeux de dégrainage, ces jeux-là sont anciens.
Oui, tout à fait.
Les Romains jouent aux cartes, il me semble.
Alors là, voilà, pour le coup, on n'est pas historien. Pour moi, l'apparition des cartes, c'est vraiment lié à l'imprimerie. Et du coup, la multiplication du jeu de cartes,
qu'on connaît, Kerox,
etc. Après, qu'il y ait des échanges de cartes en bois, là, pour le coup,
je suis pas spécialiste. Qui existaient aussi dans l'Antiquité. Mais les jeux les plus connus, même à ces époques-là, restent des jeux tels que le Mahjong, tels que des jeux comme on pouvait en connaître dans l'Égypte. Même les échecs.
On peut partir voilà sur les échecs, même si les règles ont peut-être un petit peu changé. Voilà ces jeux-là type. Alors je ne sais pas si vous connaissez Lawale, qui est un jeu africain, qui est un jeu assez ancien. Voilà, on est sur un jeu qui voilà, une fois qu'il est créé, qu'il est constitué, en tout cas on peut y jouer assez facilement. Il n'est pas très compliqué à créer. Il ne demande pas de l'impression, puisque voilà c'est une des difficultés pour multiplier en tout cas le nombre d'exemplaires sur les jeux voilà type jeu de cartes, jeu de plateau qu'on connaît aujourd'hui. Le Mahjong, effectivement, dont tu parlais, on peut imaginer qu'il y avait d'autres jeux plus anciens, le jeu de Go aussi, qui est un jeu assez ancien. Donc on a joué à toute époque, finalement, c'est-à-dire les osselets. On a joué à toute époque parce que, effectivement, c'était une façon de créer du lien social, une façon de développer aussi de la réflexion et de la stratégie, et pourquoi pas de la stratégie militaire d'ailleurs. Il paraît que les militaires étaient, en tout cas les nobles, qui devaient
jouer beaucoup aux échecs.
Et, voilà, fans des jeux de stratégie type échecs, voilà, pour faire large. Il y a un excellent bouquin d'ailleurs que tu m'avais conseillé et que j'ai lu sur la question des échecs et du jeu d'échecs de Charlemagne, si je ne dis pas de bêtises. J'ai plus le nom en tête.
Le 8 de Catherine Neuville.
Voilà, donc si vous voulez quelques...
C'est plutôt fantastique, mais ça parle d'un
grand jeu d'échecs mythique, effectivement. Donc voilà, c'est assez, assez rigolo et assez intéressant comme livre. Donc il y a effectivement les jeux antiques.
Les principales bases historiques des jeux de société. Après, ça a un peu stagné dans le Moyen-Âge et dans la Renaissance, avec très peu de nouveaux jeux. En tout cas, ce n'était pas la prérogative. On était plus porté sur les arts, évidemment. Mais au cours du XXe siècle, on a commencé à inventer un petit peu plus de jeux sympathiques qui se jouent à plusieurs. Alors, comme définition du jeu de société, déjà, la base, c'est plus de deux joueurs, un ou deux joueurs. Voilà. On ne joue pas seul. Ce n'est pas comme le solitaire. Le solitaire n'est pas un jeu de société. Et plus ça va, plus on invente des règles avec des plateaux, avec des pions, et ça devient un petit peu plus complet comme manière de jouer.
Alors, il faut aussi qu'on puisse différencier le jeu de société du sport, puisqu'a priori, ils sont nés à la même époque. Si on parle effectivement de l'Antiquité et de jeux d'échecs, de Mahjong, d'Awale, etc., et qu'on parle en même temps des Jeux Olympiques ou des épreuves sportives qui pouvaient se pratiquer, on a voilà, deux éléments qui sont une façon de s'affronter de manière amicale, le sport d'un côté, le jeu de société de l'autre. Il y a une question de technicité aussi d'imprimerie, puisqu'on voilà, on le disait, les cartes, c'est plutôt lié effectivement au déploiement de l'imprimerie, qui fait qu'on a pu imprimer des cartes en quantité, qu'on pouvait jouer dans n'importe quelle taverne à un jeu de cartes plus ou moins proche de ce qui existe en tout cas aujourd'hui. Et puis il faut du temps. Parce qu'effectivement, quand on passe son temps ou à guerroyer ou à travailler ou autre, ben on n'a peut-être pas, et puis il faut savoir lire et écrire, on a moins de facilité effectivement à jouer à des jeux qui sont complexes. Et donc les jeux de société tels qu'on les connaît aujourd'hui, leur vraie explosion finalement, c'est au XXe siècle.
Oui.
Et tu disais Marjorie, le premier jeu, Marjorie ou Ludovic d'ailleurs, le premier jeu, c'est quel
Le premier jeu, totalement, alors ça va peut-être vous surprendre, mais c'est le Monopoly qui a été créé dans les années de la crise économique de 1930. Et ce jeu est devenu l'archétype des jeux économiques et il créera de nombreux dérivés. Je cite notamment la bonne paye, ce genre de jeu où il est question de gagner de l'argent, de le dépenser et d'être le plus riche à la fin, évidemment.
Alors, une toute petite parenthèse aussi dans la même veine que les jeux de cartes et qui ne sont pas des jeux de société, mais ce sont des jeux qui se jouent en société, ce sont les jeux d'adresse. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme jeu d'adresse classique? On a, voilà, on va avoir le billard ou les billards, parce qu'il y a différents types de billards, les jeux de fléchettes, etc. Mais à la cour, notamment versaillaise, il y avait des jeux d'adresse comme ça qui se jouaient. Il y avait d'un côté les jeux de cartes où il y avait des paris, des jeux un peu type jeu de casino et puis des jeux d'adresse aussi. Et du coup, il y avait le billard.
Louis
XIV, il y avait ce
mélange-là
de jeux. Aujourd'hui, on a une vraie distinction entre le sport d'un côté, les jeux d'adresse de l'autre, et puis les jeux de société, même si parfois on retrouve un petit peu d'adresse dans certains jeux de société. Alors, Monopoly, tu le disais, c'est 1930. Un autre grand jeu qui est connu, c'est un jeu de lettres, Ludovic.
Oui, le Scrabble, qui a été créé pour le coup dans les années 50. Dont une version existait déjà auparavant. C'est encore aujourd'hui un jeu, bah effectivement un jeu leader dans le domaine où on cherche à créer des mots. Enfin, tout le monde connaît le Scrabble, mais bon, au cas où, on cherche à créer des mots.
On a gagné de l'argent, on a voilà, créé des mots avec des lettres, et puis ensuite on a la fameuse voiture.
La voiture avec le mille-bornes. Avec le mille-bornes, qui a été créé aussi dans les années 50. Par contre, pour le coup, c'est plutôt un jeu de cartes.
Alors oui, c'est un jeu de société, un jeu de cartes. Le thème de la voiture, mais on est effectivement avec cette utilisation exclusive des cartes dans le jeu de société.
C'est ça, qui est une première. Où justement, on va pouvoir interrompre le trajet des concurrents, etc.
Et puis, on revient aux premières pratiques qui sont liées aux échecs, qui sont effectivement les jeux de simulation de guerre, donc les jeux de stratégie avec deux grands jeux. Alors, un jeu qui s'appelle La Conquête du Monde et qui donnera le très, très célèbre aujourd'hui Risk. Donc là, c'est l'année 57-60. Et puis, Diplomatie, qui, alors, pour le coup, est un vrai mélange de diplomatie et de jeux de stratégie, de jeux de guerre. Donc là, c'est pareil, c'est les années 60. Ce qui est intéressant, c'est que Diplomatie, c'est peut-être le premier jeu qui fait appel à la fois à des règles, puisque bah, voilà, un jeu de société, c'est un jeu dans lequel il y a des règles précises qui sont établies, et en même temps, justement, à de la discussion et à presque du jeu de rôle entre les joueurs. Donc avant même que le jeu de rôle existe, avec Diplomatie, effectivement, on va un peu plus loin que le respect strict des règles, lancer les dés, appliquer des cartes, jouer sur un plateau. Il y a tout ça dans Diplomatie, mais il y a un petit peu plus. Et ça nous donne une transition tout à fait impeccable pour Donjons et Dragons, qui lui est en l'occurrence le premier jeu de rôle en 74.
Oui, et le jeu devient l'occasion à ce moment-là de créer des aventures imaginaires avec aucun autre support que du papier et un crayon et votre imagination. Là, plus de plateaux, plus de figurines, à moins que vous vouliez en ajouter vous-même. Mais logiquement, une simple feuille de papier et un petit crayon à papier, ça marche. Vous pouvez jouer quand même.
Et du coup, le jeu de rôle va se différencier du jeu de société à ce moment-là, Ludovic.
C'est ça, exactement. Parce que, à l'inverse, on n'a plus du tout de matériel, excepté éventuellement des dés pour certains jeux de rôle.
Et un livre de règles, éventuellement.
C'est ça. Mais encore, les dés ne sont pas présents dans tous les jeux de rôle. Il y a certains jeux de rôle où on n'a même pas de dés. Où on va justement faire appel essentiellement à l'imaginaire, ce qui est pour le coup très difficile. On va aussi avoir besoin, pour le coup, d'un maître du jeu qui va se faire le porte-parole des règles, mettre les joueurs dans un contexte, dans une ambiance, et les confronter à une aventure, les confronter à des difficultés.
Le jeu de rôle va devenir une branche complètement à part du jeu de société, mais en même temps, ce qu'on appelle le roleplay, c'est-à-dire le fait d'incarner un personnage et de ne pas s'en tenir forcément complètement strictement aux règles, mais d'y rajouter l'imagination, ça va continuer à interagir dans beaucoup de jeux et à donner une profondeur finalement à ces jeux-là. Alors après, parmi les jeux très connus, il y a le Trivial Pursuit qui est sorti en 1984, donc là, il y a très très peu de règles, puisque c'est un système de questions-réponses, on lance un dé, on tourne autour de l'anneau, on met des camemberts dans son...
D'ailleurs, ça donnera ces jeux ensuite fait plus pour la convivialité que pour de l'adresse ou de la stratégie ou même du sens de l'observation. C'est juste des connaissances sur le monde général.
Des règles et très simples en fait, à appréhender, puisque c'est une des difficultés souvent quand on part dans un jeu de société, c'est qu'il faut comprendre les règles qui sont parfois nombreuses. Sur des jeux simples comme le Trivial Pursuit, même si le jeu est complexe, parce qu'effectivement les questions sont difficiles, les règles sont simples. Le Pictionary, c'est pareil, donc le fait de dessiner, de faire deviner des choses en les dessinant, c'est quelque chose qui est très simple, qui s'explique en une phrase. Le Tabou, c'est pareil, faire deviner un mot sans en citer d'autres, en une phrase la règle elle tient, et donc on peut assez facilement sortir le jeu et commencer à jouer avec des joueurs qui ne sont pas là. Ça donnera d'ailleurs ces types de jeux, je pense, ce qu'on appelle aujourd'hui les jeux apéro, qui sont des jeux dont les règles sont courtes, mais par contre dont la durée de jeu est courte aussi. Alors que là, sur un Trivial Pursuit ou sur un Pictionary ou même sur un Tabou, on peut atteindre facilement les 1h, 1h30, voire 2h sans trop de problèmes.
Ah bah même un risque, où j'imagine aussi un Diplomatie, les parties peuvent être extrêmement longues.
C'est-à-dire effectivement, sur ces jeux-là, ça peut être long. Mais même un Monopoly, Monopoly, ça peut durer très très longtemps. Alors ensuite, le premier jeu de cartes à collectionner, tu nous as référencé tout ça, Marjorie.
Magique, l'Assemblée, c'était sorti en 93, les fameuses cartes Magic, qui encore aujourd'hui sont extrêmement connues. En fait, elles ont plus de 20 ans. Elles ont très précisément 24 ans aujourd'hui. Elles sont basées sur l'univers médiéval fantastique. Et elles sont issues des univers de jeux de rôle, de dessins animés, et puis un petit peu du cinéma. Et ces jeux de cartes proposent juste un duel stratégique avec une petite part de hasard, parce que vous contrôlez pas totalement les cartes que vous allez avoir.
Vous prenez la bataille avec des cartes classiques, donc on est sur
et vous jouez avec des personnages.
Et puis là, par contre, on rajoute effectivement beaucoup, beaucoup de règles, de personnages, d'échanges, de stratégies. On complexifie beaucoup les choses. Et puis surtout, quelque chose qui est tout à fait nouveau à ce moment-là, c'est que vous allez rajouter le fait que ce soit à collectionner. Vous n'achetez pas un paquet de cartes dans lequel vous pourrez jouer à plein de jeux différents. Vous n'achetez pas une boîte de jeux avec laquelle vous pourrez faire plein de parties. Vous achetez un set de départ et puis puis il va falloir collectionner, échanger, etc. Donc ça rajoute des interactions, ça rajoute du marketing aussi. Et donc effectivement, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Alors on va parler un petit peu de nos jeux préférés, essayer de différencier effectivement les différents courants. Est-ce que ça apporte le jeu? Simplement, on va rappeler sur le côté européen. En fait, c'est bien la France qui est le principal marché européen en termes de vente, qui est suivi de près par l'Allemagne. Au niveau culturel, en revanche, l'Allemagne reste devant la France sur la culture du jeu, puisque il est beaucoup plus logique, habituel et normal de prendre un jeu en famille le dimanche, le samedi en Allemagne qu'en France. On a encore pas mal de réticence, même s'il y a un vrai développement avec beaucoup de jeux qui sortent aussi en France.
On est encore très attaché à la télé du dimanche.
C'est ça. Et voilà, il n'y a pas ce même réflexe de dire on est en famille, on sort un jeu de société et on se farcit des nouvelles règles, c'est pas un problème. Sur les chiffres, le chiffre d'affaires, il faut quand même le rappeler que c'est pas rien, c'est 325 millions d'euros, ça c'est en 2012, le chiffre d'affaires pour ce segment d'activité. 900 nouveaux jeux de société sont créés chaque année dans l'Hexagone, c'est des chiffres qui sont absolument... absolument énorme. C'est vous dire s'il y a, beaucoup de choses à faire et à voir. Une pause musicale, on se retrouve juste après pour vous parler un peu de nos coups de cœur et de nos recommandations, nous, en termes de jeu. Et de retour dans Génération Geek, on vous parle de jeux de société avec Marjorie et Ludovic. On va faire un peu le tour effectivement de nos coups de cœur, des jeux qu'on préfère, des jeux qu'on vous recommande, des différentes façons qu'on a les uns les autres de jouer, nos collections personnelles, les moments où on joue, comment est-ce qu'on trouve des joueurs aussi. Enfin voilà, on a plein de choses encore à vous raconter sur le jeu de société et ses généralités. En tout cas, voilà, rappelez-vous, le Monopoly, la date de sortie, c'est bien en 1930 et c'est le premier vraiment jeu de société officiel. Alors, Marjorie, justement, toi, ton petit coup de cœur personnel, ce serait pas un des jeux qu'on a déjà cités ?
Si, mais du coup, maintenant que j'y réfléchis bien, j'en ai plusieurs, c'est difficile de se décider. Non, je vais rester sur mon coup de cœur favori, j'adore jouer au Monopoly. Alors je sais, ça fait pas très geek, c'est pas très tendance.
T'as bien incarné la petite voiture, c'est pour ça ?
Non, parce que moi, quand j'y jouais, j'avais juste les pions, on avait tous les mêmes pions, on n'avait pas les petites voitures, c'était un vieux jeu. Hein, et du coup, on faisait des parties absolument rocambolesques en famille qui pouvaient durer jusqu'à 4-5 heures la partie. C'était souvent le samedi soir après le repas, l'apéro.
Est-ce que c'est la mécanique de jeu finalement qui te rappelle des bons souvenirs et qui te fait le Monopoly, ou est-ce que c'est pas le rappel des souvenirs finalement ?
Eh bien, le rappel des souvenirs est super important parce que quand vous partagez un jeu avec quelqu'un, ça peut devenir votre préféré si tant est que vous avez passé un bon moment pour le faire. Après, je trouve que le jeu est facile à prendre en main, même quand on ne connaît pas les règles. Hein, il suffit d'avancer sur les cases et d'acheter des maisons. Bon, là, c'est pas compliqué. Après, quand on est une enfant, on a souvent très envie d'avoir toutes les plus jolies maisons. Donc ça, c'est très marrant. Moi, j'adore avoir la rue de la paix, mais je crois que c'est le cas de tout le monde.
Qu'est-ce que tu penses, toi, Ludo, du Monopoly ?
En fait, le Monopoly, justement, j'avais posé une question à Marjorie. est-ce que t'as déjà... Enfin, toutes tes parties de Monopoly se passaient bien ?
Ah bah non, non forcément, ça ne peut pas bien se passer une partie de Monopoly, c'est ça qui est marrant. Il y a toujours un mauvais joueur autour de la table, qui ne tombe jamais dans le parc gratuit, qui prend toutes les mauvaises cartes où il doit payer des impôts, et ça commence à se friter aux quatre coins de la table. C'est ça qui est marrant.
Monopoly fait partie de ces jeux qui sont extrêmement simples et qui sont un peu décriés quand même par les joueurs de la société aujourd'hui, comme le risque, comme la bonne paye, etc. Parce qu'effectivement, les règles sont très simples et la part de stratégie, elle est quasiment nulle. C'est-à-dire qu'au Monopoly, je vais vous donner la règle pour gagner, hein, c'est hyper simple. C'est-à-dire que vous lancez le dé, vous tombez sur un truc, vous l'achetez systématiquement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter, il faut toujours acheter. Dès que vous avez trois rues d'affilée, vous collez des maisons dessus. Quand vous avez quatre maisons, vous collez un hôtel et vous attendez que quelqu'un tombe dessus et soit ruiné. En gros, voilà, la stratégie, elle ne va pas au-delà de ça. Il n'y a pas de moment où on se dit « non, il ne faut pas que j'achète, machin, etc. » Il faut toujours acheter. La bonne paye, c'est pareil. Sur la bonne paye, je ne sais pas si vous avez déjà joué les uns et les autres, mais il y a la partie vente aux enchères. Ben, ce n'est pas compliqué. Sur toutes les cases, vous êtes obligé de payer ou de récupérer un truc. Donc, vous n'avez pas le choix de la stratégie. Et après, il y a la case vente aux enchères où vous avez le choix ou pas de choisir sur les transactions. Ben, c'est pas compliqué non plus. La stratégie, c'est à chaque fois qu'il y a un truc que vous pouvez acheter et revendre plus cher, vous achetez le truc et vous le revendez plus cher. Et la stratégie se limite en fait à ça. Et c'est ce qui fait que c'est un peu triste parfois. Alors sur le risque, ça va plus loin parce qu'on peut commencer à gérer les territoires, à manipuler un peu ses armées, etc. Mais au risque, il y a les dés qui font que bah, même si vous avez 10 canons et qu'en face, la personne, elle a 3 cavaliers, bah, pour peu qu'elle ait beaucoup de chance au dé, vous allez finir par perdre vos 10 canons. Et c'est très rageant parce que vous avez lancé le dé à peu près 50 fois pour perdre vos 10 canons. Mais c'est comme ça. Voilà, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de lancer le dé au risque. Donc du coup, voilà, ces jeux où l'ambiance globale est assez faible, où la stratégie finalement peut se limiter en une phrase, crée parfois une frustration chez les joueurs un peu expérimentés. Ça n'empêche
néanmoins
très bons moments en jouant à ces jeux-là et qu'on peut avoir des très bons souvenirs en mémoire de ces jeux-là, effectivement. Ludovic, parlons un peu de tes coups de cœur et rebondis ce que je viens de dire à toi de jouer.
Des jeux simples ou même sans stratégie, aujourd'hui, on a aussi des jeux avec relativement peu de stratégie et qui sont assez simples. Je pense notamment à l'époque Skull and Roses, un jeu de bluff, où justement on a juste chaque joueur à 4 cartes, dont une avec un crâne et 3 avec une rose. Et c'est purement un jeu de bluff. Il y a pareil niveau stratégie. Je pense que c'est purement de l'ambiance, du bluff. On passe un super bon moment, les règles sont simplissimes et on s'amuse beaucoup. Après, c'est justement, je pense, moi, pour le Monopoly, ce qui me dérange, c'est plus le temps passé pour l'amusement généré et par rapport à la simplicité. C'est qu'on va passer beaucoup de temps pour faire une partie à manipuler des règles simples. C'est plus ce genre de choses qui commence à faire que ces jeux sont décriés.
Risque est intéressant en début de partie, je dirais. Dès qu'on arrive avec... vous étiez 4 joueurs autour de la table, il n'en reste plus que 2, vous avez chacun des armées énormes. Bah là, la partie va durer très longtemps, vous allez jeter beaucoup de fois les dés, il ne va pas se passer grand-chose et ça devient un peu pénible. Alors que le début de partie, où chacun a assez peu d'armées et bien réparti sa carte, là, il se passe des choses. Si vous aimez le principe du risque, moi, je vous recommande Small World. Pour le coup, Small World fonctionne quasiment comme le risque, avec des territoires, des armées. Par contre, il y a une forme de rigidité dans les règles au niveau du nombre d'armées maximum par peuple qui fait que vous êtes obligé de faire des choix. Obligé de faire des choix d'agression ou de pas agression et obligé de décliner. Donc, c'est-à-dire que c'est de changer de peuple à un moment donné pour en prendre un autre parce que vous allez être trop juste dans vos choix. Et dès qu'il faut faire un choix et que ce choix n'est pas remis complètement au hasard, là, il y a de la stratégie qui rentre en compte. Et l'amusement, pour moi, est plus important quand, effectivement, il y a à la fois cette stratégie qui rentre en compte, quelle qu'elle soit. Hein, parce que, même au tabou, le jeu est très simple, mais la stratégie, c'est comment est-ce qu'on manipule les mots. Et puis aussi, moi, quelque chose que j'aime beaucoup dans les jeux, c'est quand le jeu est beau. C'est-à-dire quand il vous plonge dans une ambiance, quand ses illustrations sont intéressantes et quand l'imaginaire qu'il y a autour, finalement, est intéressant. Intéressant. Alors vas-y Ludovic sur les coups de cœur.
Un qui me vient en tête, on parlait tout à l'heure des cartes Magic, enfin de Magic l'Assemblée. En fait, il y a un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Gozu, qui veut dire Gobelin Suprématie, qui est un jeu édité par
Moonlight.
Moonlight, c'est ça.
D'avoir une documentaliste dans l'équipe, c'est quelque chose.
C'est pratique. C'est pratique. En fait, c'est un jeu qui est donc dérivé des Magic, où on utilise les mêmes genres de mécaniques sur le jeu. Sauf que ce n'est pas des cartes à collectionner. On a un set de base. On a une extension à acheter, mais une seule. Et en fait, on va devoir... Ce qui est très intéressant sur ce jeu-là, c'est qu'on est obligé toujours de faire des sacrifices. C'est-à-dire qu'on n'a pas de ressources illimitées. C'est que pour poser une carte, on est obligé d'en balancer d'autres. On est toujours obligé de faire un choix de sacrifier sa main. Et je trouve que ce jeu, justement, est très intéressant parce qu'on a une grosse prise de risque, mais c'est purement de la stratégie. Il n'y a aucun hasard. Enfin, aucun hasard, à part la pioche, mais on n'a pas de lancer de dés qui vont nous porter la poisse.
Alors, sur les jeux, hein, de choisir un jeu, c'est très compliqué parce que voilà, on a tous beaucoup de jeux à la maison et on aime bien plein de jeux. Alors, moi, j'avais un petit coup de cœur pour le Stratego parce que c'est effectivement un mix entre des échecs et du risque, sachant qu'on ne voit pas les pièces de l'adversaire. Donc, je trouve qu'il y a un côté assez intéressant. Un vieux jeu qui mélange jeu de rôle et puis jeu de plateau, c'était le HeroQuest où effectivement, on est aux prémices du jeu de rôle et on est encore dans le jeu de plateau. Donc, il y a un truc tout à fait sympa et intéressant. Et puis, il y a une gamme dont on n'a pas parlé du tout, c'est des jeux à licence. Il y a de plus en plus de jeux à licence tirés d'univers qui sont à succès, alors que ce soit les séries, que ce soit les livres, que ce soit les films. D'ailleurs, ça va te faire plaisir, Ludovic, je crois qu'il y a un jeu de plateau Batman qui va à nouveau sortir. Moi, je pense au jeu de plateau Game of Thrones, qui est en fait une reprise du jeu Diplomatie, donc qui est un très vieux jeu, mais qui marche très très bien dans la licence Game of Thrones, parce que Diplomatie, on en a parlé, hein, c'est un des premiers jeux, hein, c'est un jeu qui est sorti en 59, où on mélange effectivement cette idée d'avoir des armées comme au risque, cette idée de se faire des coups fourrés, discuter avec ses joueurs, avec les autres joueurs, de créer des alliances et puis éventuellement de les rompre, de les trahir, etc. Mais dans l'univers de Game of Thrones, je trouve que ça colle tout à fait, parce qu'effectivement c'est l'univers et à la fois des livres et de la série. Donc voilà, c'était l'occasion de parler effectivement aussi des jeux un peu à licence. Vous avez des mots pour conclure cette émission, des choses que vous vouliez rajouter sur le thème du jeu de société, de son histoire et des valeurs que ça porte peut-être, ou des grandes catégories?
Continuez de jouer, ou si vous ne jouez pas encore, commencez. De toute façon, au pire, vous passerez un bon moment. Au mieux, vous passerez un moment extraordinaire avec des amis ou de la famille.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut, en tout cas quand on reçoit, quand on veut proposer un jeu à des gens, il faut d'abord commencer par comprendre le jeu et bien saisir
connaître les règles.
Les règles. Et ça, c'est pas facile. Et puis, il faut s'entraîner à les expliquer. Comment tu fais, Ludo? On sait que t'es un champion pour expliquer les règles de jeu. Comment tu fais pour expliquer les règles de jeu à quelqu'un?
La question piège. Ce qui sait que c'est toujours la galère quand j'explique des règles. je galère donc. Non, je les lis d'abord bien en détail. J'essaie de comprendre aussi les stratégies qui peuvent se lire en filigrane pour essayer de donner des clés aux joueurs, mais surtout d'essayer d'expliquer à la fois, commencer par expliquer l'objectif, le thème en gros, et ensuite de rentrer dans les détails, de pas assommer les joueurs avec trop de règles. Et
faire une partie solo, parfois ça sert.
Faire une partie solo, je fais quasiment ça à chaque fois, mais il faut avoir le temps. Et
dans une partie solo, c'est-à-dire que tu vas incarner du coup les différents joueurs autour de la table en faisant les actions des uns et des autres, l'un après l'autre.
C'est ça. Et puis quand c'est des jeux où on est de bluff et tout ça, essayer d'être de bonne foi.
mais c'est sûr qu'un poker menteur tout seul, c'est compliqué quoi.
C'est ça, on est obligé de faire celui qui va se faire avoir à chaque fois. Mais non, puis d'essayer aussi justement, essayer de proposer un tour à blanc ou d'essayer de faire une démonstration, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qui se fait de plus en plus au niveau des règles, justement, des vidéos explicatives, des vidéos de parties de démo. Et ce qui est très bien et qui permet vraiment de mieux comprendre.
Il y a quelques jeux qui ont des règles complexes, mais dont il n'est pas nécessaire de les lire avant. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est des jeux dont les règles sont incluses dans le prologue ou dans la première partie de jeu. Et du coup, tous les joueurs peuvent démarrer le jeu en même temps et effectivement commencer à jouer tous ensemble en suivant et en apprenant les règles au fur et à mesure. Exactement comme ce qui se fait en jeu vidéo. Il y a des tutos. En tout début de jeu, les premiers niveaux servent en fait à comprendre les différentes commandes et mécaniques de jeu.
Un jeu qui fait ça, c'est Andor, pour mémoire, qui est très bien.
Marjorie. D'accord, Marjorie ne voulait rien dire, elle me disait juste, mais on a la fin de l'émission, à un moment donné, il va falloir conclure.
Et oui, malheureusement.
Bien sûr, voilà.
Ouais, mais vous me donnez un thème comme ça aussi.
On pourrait en parler longtemps.
On va tirer la carte chance très rapidement et vous dire, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on vous parle d'un film, Logan, qui est un film sur les super-héros et sur notamment l'un des super-héros, Wolverine. À la semaine prochaine, salut.
Salut.
Salut.